Bonjour, donc comme Diane, je suis chercheur au Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. En fait, on pourrait presque s'arrêter là, parce que notre domaine de réflexion à tous les deux est très voisin. Je vais faire une sorte de post-scriptum, sans jeu de mots, à l'exposé de Diane pour apporter quelques éclairages complémentaires sur le versant maîtrise de la lecture et son importance donc, pour la question de la réussite universitaire. Alors j'ai repris le plan qui nous était proposé. Hein. D'abord dresser un tableau, des constats, puis ensuite aller vers des zones d'ombre, des questionnements, puis proposer quelques éléments de recherche. Les éléments de recherche, évidemment, vous avez compris, on vous les propose à travers le programme qui est en cours à l'Université de Poitiers, les défis Paris, qui nous donnent la possibilité d'associer recherche et innovation pédagogique. C'est un cadre tout à fait intéressant. Donc pour ce qui concerne la lecture, je vais reprendre un peu des éléments généraux qui ont déjà été discutés par ailleurs par les intervenants ici. Ce qui est en jeu, c'est évidemment un changement dans la conception du savoir. Je pense que à travers les âges, tous les systèmes universitaires génèrent leur taux d'échec, ça a été dit encore tout à l'heure, et bon, je pense que notre époque n'échappe pas à la règle. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de se demander dans quelle mesure les raisons de ces échecs évoluent aussi avec l'évolution des sociétés. Et donc, ce qu'il faut noter dans la période contemporaine, c'est évidemment ce grand changement, ce bouleversement dans le statut du savoir, qui est lié, entre autres, à l'explosion de l'information et de sa circulation. Donc j'ai repris ici une citation de Simon, qui a déjà 20 ans, mais qui nous dit essentiellement, voilà, on passe d'un système transmissif d'apprentissage par la mémorisation à un système dans lequel ce qui prime, c'est la capacité de chacun à construire et reconstruire ses connaissances, et donc la construction et l'apprentissage de moyens permettant ce travail permanent d'usage de l'information au profit de la connaissance. Et donc ce constat, évidemment, il s'accompagne d'un autre constat tout à fait factuel qui est la participation de plus en plus importante de la communication écrite dans les processus d'enseignement. Ce n'est pas spécifique à l'université, on trouve ça aussi dans l'enseignement primaire et secondaire, mais on n'a jamais autant imprimé de papier, en quelque sorte, hein, au service de l'enseignement. Un département de psychologie comme celui de l'Université de Poitiers, dans lequel je suis présent depuis très longtemps, imprimait 50 à 100 000 copies par an il y a 30 ans, on en imprime 1 million aujourd'hui. Bon, donc c'est cet ordre de grandeur, le coût de la reprographie a baissé, etc. L'édition n'a jamais été, l'édition scientifique, universitaire n'a jamais été aussi florissante. Et donc on a cet usage croissant de la documentation dans l'enseignement présentiel et plus encore dans les nouvelles formules d'enseignement à distance qui met en quelque sorte la pression sur les capacités des étudiants à s'approprier les connaissances via des systèmes hybrides dans lesquels il y a évidemment la parole de l'enseignant qui est toujours là, mais qui elle-même prend une tournure de plus en plus écrite, hein, et donc la capacité à travailler, à traiter ces informations avec un lien étroit, comme l'a dit Diane, entre le versant recherche de l'information, lecture, compréhension, interprétation, et le versant de la production. Alors, ça nous invite, c'est la réflexion que je mène pour ma part, d'abord à reconsidérer la notion d'apprentissage de la lecture. On est, quand on regarde l'organisation de nos systèmes éducatifs en France et puis dans la plupart des pays comparables, on possède tous un schéma culturel de pensée selon lequel on apprend à la lecture en apprenant à déchiffrer le langage écrit, puis à comprendre les idées du texte. Cet apprentissage-là, c'est un apprentissage fondamental, essentiel, mais il concerne essentiellement l'école primaire. Et donc, on devrait avoir, à l'âge de 10-12 ans, des lecteurs qui sont formés, qui sont prêts à aborder l'ensemble des activités pour lesquelles on va mobiliser cette compétence. Évidemment, cette vision simple, ce simplisme de la lecture ne cadre pas avec la diversité et la complexité des activités de lecture telles qu'elles sont proposées à nos étudiants. Et c'est ce qui est reflété dans la définition que j'ai reproduite ici en bas, qui est celle de l'OCDE, en tout cas proposée par l'OCDE dans le cadre de ses enquêtes sur les compétences des élèves de 15 ans. L'enquête PISA, donc pour laquelle l'OCDE nous dit s'engager, maîtriser la lecture. Donc c'est bien évidemment savoir déchiffrer et comprendre, ce n'est pas le problème, mais c'est aussi être capable de s'engager dans la lecture, donc aller vers le texte, rechercher de l'information, comprendre, mais aussi utiliser, réfléchir sur les textes écrits pour pouvoir atteindre ses objectifs, par exemple pour pouvoir en produire de nouveaux, hein, de façon à développer ses connaissances et prendre une part active à la vie en société. Donc il y a cette recherche d'une définition élargie et donc d'une meilleure compréhension de la problématique de l'étudiant dans les situations de lecture auxquelles il est confronté. Ça, c'est un schéma qui reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire on a la vision classique ici avec un apprentissage de la lecture qui est réservé au cycle primaire, et puis un abîme entre ce qui se passe jusqu'à 11 ans et puis le type d'activité auquel nos étudiants sont confrontés lorsqu'ils arrivent à l'âge de 18 ans et qu'ils entrent à l'université. Au milieu, on a la scolarité secondaire et tout ce que l'on sait à peu près sur la maîtrise des compétences nous vient précisément de l'enquête PISA, avec ici, pour aller vite, l'un des graphiques issus de la dernière mouture de PISA dans laquelle la lecture était le domaine principal, donc c'est l'édition 2009, et qui montre bien cet étirement des compétences qui sont sous-jacentes au fait d'être capable de lire, avec certains aspects de la lecture tout à fait bien maîtrisés par les élèves de 15 ans, lorsqu'il s'agit simplement de déchiffrer l'information qui est juste là et de s'en servir pour répondre à une question, ou de faire un tout petit peu plus que ça, d'extraire une idée principale à partir d'un ensemble d'éléments. Puis on voit ici un niveau de réussite qui baisse, donc un niveau de difficulté croissante, lorsque les activités de lecture vont vers l'intégration, c'est-à-dire le fait d'être capable de mettre ensemble plusieurs textes, qui est typique de la lecture de niveau universitaire, et également la réflexion, par exemple la mise en cause de la qualité et de la crédibilité de l'information. Typique lorsqu'on est dans un environnement numérique où on s'intéresse à un sujet, mais on va être face à des informations qui sont d'origine diverse, donc il faut aussi apprécier l'actualité, la qualité, la crédibilité des informations qu'on traite. On sait simplement qu'à 15 ans, ce sont des aspects de la lecture qui sont très difficiles pour les élèves. Ce qu'on ne sait pas, c'est si par hasard ou par miracle, entre 15 et 18 ans, ils développent des compétences. Donc j'en arrive à la deuxième partie de cette intervention sur les questionnements qui peuvent être formulé à partir de ces constats. Quel est le niveau réel de maîtrise de la lecture des étudiants à l'entrée en licence ? Lecture entendue au sens large que je viens d'esquisser. On n'en sait pas grand-chose. Quelles sont leurs stratégies face à un environnement pédagogique et en particulier informationnel de plus en plus riche, mais aussi de plus en plus complexe ? C'est l'allusion que je faisais à la masse d'informations que l'étudiant en licence doit traiter pour faire son travail d'étudiant. Est-ce qu'il existe une fracture numérique ? S'agissant des outils numériques, évidemment, on parle beaucoup des opportunités liées à l'usage du numérique, mais il faudrait aussi parler un petit peu des défis que cela pose, notamment pour les étudiants qui arrivent à l'université, sans avoir nécessairement une bonne maîtrise des outils numériques, d'accès et de traitement de l'information. Et puis, est-ce que tous ces éléments-là sont, oui ou non, liés à la réussite académique ? Car j'ai insisté sur académique, que vous voyez sur la diapo. Si oui, bien évidemment, quelle stratégie pédagogique est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Alors, je dois dire que je suis chercheur, c'est mon activité principale, mais j'enseigne aussi dans le cursus de licence de psychologie en première et en troisième année, précisément dans le cadre de l'enseignement de la démarche de recherche, et en particulier de la recherche d'information, recherche documentaire. Donc, dans le cadre du projet IDEFI PARE, bon, je vais répéter un petit peu ce que tu as dit, on mène un ensemble d'actions avec des méthodologies qui sont typique de la recherche sur le comportement et l'étude des compétences, donc qui peuvent aller de la conduite d'observation très très fine et précise, comme dans ce que la démarche de Diane a illustré, jusqu'à des observations peut-être un petit peu plus superficielles, mais qui peuvent porter sur de plus grands nombres. Donc pour ma part, j'ai choisi, dans le cadre de ce projet-là, l'entrée par la largeur de l'observation et les grands nombres, en réunissant un panel qui compte actuellement environ 900 étudiants, avec lesquels on travaille en deux phases. La deuxième phase ne va pas concerner d'emblée tous ces étudiants, ce serait juste une partie, seulement 500 à 600 pour cette année. On a travaillé par questionnaire sur les représentations, mais aussi les connaissances liées à la lecture, et en particulier à la question de l'évaluation de l'information. Et puis, à partir des constats qu'on a pu faire dans cette enquête, donc ça c'est un travail sur plusieurs années, hein. On a commencé avant ça d'ailleurs par une revue de la littérature à laquelle Diane a fait allusion. Et puis, donc, l'an dernier, on a fait ce travail d'enquête. Et là, on commence à faire, à titre expérimental, donc, des interventions pilotes. Ça consiste tout simplement à travailler avec les équipes enseignantes et à proposer des réaménagements, sans tout casser, tout en respectant, j'allais dire, le cadre de travail de nos collègues, hein, ceux qui font les chargés de TD, qui vont dans les classes, mais peut-être à proposer des manières un petit peu différentes de travailler, une réorganisation des objectifs pédagogiques, une mise en question de l'adéquation entre ce qui est proposé, notamment au premier semestre, hein, de la première année de licence, et puis ce que les étudiants savent ou savent faire. Donc ça, c'est vraiment un travail en cours. Donc Diane vous a annoncé que j'allais en parler. Ben voilà, ça y est, j'en ai parlé. On n'a pas de données encore, puisqu'on vient de recueillir les derniers résultats de cette petite intervention qui a été menée à titre expérimental avec toute la promo de première année de licence cette année. Ce que je vais faire, c'est, s'il me reste quelques petites minutes, juste vous donner quelques illustrations ponctuelles pour illustrer encore un peu plus concrètement cette notion d'une vision élargie de la lecture, avec des compétences qui partent de la lecture pour aller vers la maîtrise de l'information, et puis donc essayer de voir où est-ce qu'on en est sur le lien possible avec la réussite. Alors, comme première illustration ponctuelle, j'ai choisi quelques exemples dans les différents scénarios qui ont été proposés aux étudiants, et j'ai choisi un scénario d'évaluation de l'information. On leur pose une question sur un sujet qu'ils connaissent très mal, le syndrome d'autisme. On a entendu parler, il y a une certaine médiatisation, pour savoir ce que c'est, d'où ça vient, comment on s'en occupe. Alors, c'est un sujet qui peut concerner les étudiants en psychologie, bien sûr, mais on peut aussi poser cette question, tout un chacun pourrait être amené à s'intéresser à cette question et à rechercher. Et donc, on propose aux étudiants des exemples de sites, exemples qui sont tirés de vraies recherches qu'on a faites nous-mêmes, et donc des exemples plausibles de sources d'informations possibles sur ce sujet. On leur demande ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils iraient vers ces sources d'informations ou pas. Et donc là, vous voyez un exemple qui est complètement extrême. Est-ce que vous iriez voir le site d'une secte qui défend l'idée que l'autisme est lié à la pollution atmosphérique ? Et un certain nombre de mots-clés qui suggèrent peut-être une qualité assez faible et un point de vue assez orienté de l'information qui va être donnée ici. Et donc les étudiants le savent bien et en grande majorité nous disent non, on n'irait pas voir ça. On contraste ça avec le site d'un organisme scientifique qui fait le point sur le traitement de l'autisme. Il y a d'autres mots-clés qui décrivent cette source et ces mots-clés parlent aux étudiants d'une façon qui fait que dans leur grande majorité ils nous disent oui, j'irai voir ça. Là où c'est plus problématique, c'est qu'on a d'autres source un petit peu intermédiaire, plus difficile à démêler. Je vous laisse lire, j'espère que c'est lisible de là-haut, le site d'une pharmacie en ligne qui propose un médicament contre l'autisme. Alors sur ce genre de source, les étudiants en première année sont très partagés. Ils ont des difficultés à interpréter ces informations. C'est un problème de lecture et de compréhension, puis évidemment de connaissance en arrière-plan sur quelle est la compétence de la source, mais aussi quelle est son intention. Cette notion de fiabilité, de bénévolence de la source est ici un problème. Vous voyez la distribution des réponses. Et puis on a le même tableau avec d'autres items. Par exemple, quand on leur demande s'ils iraient voir le portail du service commun de documentation de l'université, en majorité, ils nous répondent que non. Donc là, on est sur une autre dimension encore. C'est peut-être le... Bah oui, c'est dommage. Puisque ça coûte, pardon. Donc il leur faudra du temps. En troisième année, ça va mieux, je peux vous rassurer, pour enseigner l'usage de ce portail. Nous étions en troisième année, mais il faut attendre vraiment plusieurs cycles, plusieurs semestres, pour que les étudiants réalisent que c'est une vraie source d'information. Et accessoirement, spontanément, qu'ils s'orientent vers cette source pour trouver ce dont ils ont. Alors, c'est anecdotique, mais on peut reproduire. Ces observations ont été faites par d'autres collègues d'autres endroits. Il y a vraiment une notion de culture de l'information tout à fait importante à mesure qu'on est dans un monde très riche en information et qu'être étudiant, c'est très rapidement être capable de, non pas de savoir où je vais trouver l'information, il y en a partout. Un clic vous donne plus de liens que vous ne pourrez jamais en lire de toute votre vie sur n'importe quel sujet, mais quelle est la bonne information pour moi ? Celle qui va compléter ce que j'ai vu en cours, ce que j'ai vu en télé, etc. Donc ça, c'est un problème. On sait plus généralement que c'est associé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon je vais me faire gronder. Mais si je vous montre un deuxième graphique qui renvoie à une toute autre dimension, qui est le sentiment de maîtriser la lecture par l'étudiant. Ce sentiment n'est pas du tout parfait. On a une grande distribution des réponses à des questions du genre « L'activité de lecture pour les besoins de mes études me paraît facile ». Donc on a un petit inventaire comme ça qu'on a mis au point et qui nous dit que sur des items comme celui-ci, pour certains étudiants, subjectivement, c'est difficile de lire pour les besoins des études. C'est aussi un constat intéressant. Quand on met les différentes questions bout à bout, ça nous fait une distribution qui ressemble à celle que j'ai montrée pour l'item, mais et qui nous permet de conclure que l'auto-estimation de la compétence à lire chez ces étudiants qui entrent à l'université est extrêmement variable et qu'on a toute une partie de notre population d'étudiants qui ne se sent pas très à l'aise avec le type de lecture qui leur est proposé, donc les défis qui leur sont posés. Quand on les teste d'une manière plus objective, c'est-à-dire sans passer par leur subjectivité, mais avec des tests de lecture, on obtient des dispersions à peu près comparables. Voilà, j'en ai presque terminé. Donc, on a besoin de reconsidérer cette notion d'apprendre et de maîtriser la lecture pour y inclure des compétences de niveau universitaire et donc de s'interroger sur l'enseignement de ces compétences, évidemment, tout au long du secondaire, mais aussi à l'université. On voit notamment à l'entrée à l'université des stratégies d'évaluation de la qualité de l'information extrêmement peu mal assurées et une vulnérabilité de beaucoup d'étudiants à l'égard de sources douteuses pour se procurer des informations. C'est associé à une auto-estimation de compétences et à réellement une distribution de compétences extrêmement hétérogène. On a donc, suite à ces constats, donc des interventions pilotes, donc je parlerai peut-être une prochaine fois, en lien avec les équipes d'enseignants. C'est une approche clairement réformiste. Il y a énormément de contraintes sur le système. L'an dernier, l'effectif des étudiants en première année de psychologie à Poitiers est soudain passé de 600 à 850. Voilà, et donc, on a connu l'effectif dans la dernière semaine du mois d'août, et il fallait ouvrir 4 groupes de TD supplémentaires et accessoirement trouver les intervenants. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de problématique. On ne peut pas arriver en disant « Youpi, on va faire des petits groupes collaboratifs avec les nouvelles technologies ». Et les collègues qui enseignent, enfin, vous le savez, ont besoin qu'on s'inscrive dans le système de contraintes de notre enseignement supérieur. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire en travaillant sur simplement à quoi est-ce qu'on passe son temps dans une séance de TD, est-ce qu'on peut cibler les activités, les exercices, les questionnements pour essayer d'apporter des éléments donc de compétences qui peut-être seront utiles ensuite aux étudiants dans la poursuite de leurs études. Voilà, et je vous remercie de votre attention.